bois impavides, comme cet orage d'apocalypse. Les nuits de l'automne et de l'hiver laissèrent d'abord Annette sans recours. Elle résista, elle ne voulait pas être emportée, elle ne le serait pas. Paul tenait à ses trois fenêtres nues, sans rideaux, luxe qu'autorisait. En un pays où chacun se souciait de n'être pas vu, la situation de la maison à la sortie du hameau et le fait d'avoir contre l'avis de la tribu élu définitif domicile à l'étage, autant dire dans la grange, Annette comprenait que voiler les fenêtres, les accabler de rideaux, serait pour Paul une lourde concession à la loi commune et pour elle l'aveu d'une défaite. Il fallait supporter et trouver le nécessaire secours dans les gestes prévus et répétés de tâches repoussées jusqu'à ce moment fatidique. Dans la présence d'Éric qui rentrait de l'école vers 5 heures ou, en dernière extrémité, dans le ronronnement commode de la télévision. Elle n'aurait pas imaginé ça, cette lutte contre la marée galopante qui, dès le milieu de l'après-midi, sourdait de toutes parts et ne refluait pas, ne cédait pas. On n'avait pas les moyens de jubiler, c'était l'organique et souverain, brutal et sans appel. Annette allumait les lumières de la pièce et avait disposé une lampe de chevet trapue et jaune près de la fenêtre du milieu, la plus nulle entièrement vouée au pré et au bois, à ce moutonnement de rue dont la seule vue à certaines heures la terrassait de frissons. Paul ne dit rien les premiers soirs et demanda ensuite pourquoi, à cet endroit, cette lampe qu'il voyait depuis les hangars. Annette aurait voulu expliquer, raconter, Bailleul ou Armentières, les petites villes où elle avait grandi, vécu, et l'éclairage public qui, fut-il chiche, contenait la nuit la percée l'écharpait, même si contrainte et traquée, elle trouvait encore refuge dans certaines rues écartées, privées des plus récentes commodités. Annette aurait voulu, mais toujours les mots manquaient. Elle avait seulement parlé d'une façon de rendre la maison accueillante et d'un usage transmis par sa mère. Plus tard, elle avait pensé à la dépense supplémentaire et surtout à Nicole qui remarquerait la lampe et ferait ses commentaires aux oncles. On le saurait, les oncles glisseraient une réflexion, pas une question. Ils ne posaient pas de questions à Annette et à Éric. Ils leur parlaient comme s'ils eussent été très loin et semblaient regarder autre chose au travers de leurs deux corps étrangers, tombés d'ailleurs du nord du monde de la ville, par le vouloir radical et le singulier truchement de Paul, le neveu, qui n'avait pas su rester sans femme. Il n'en était pas à sa première tentative. Après avoir couraillé de ci de là, comme font les jeunes dans les bals, il avait d'avant même la trentaine signifié aux oncles qu'il ne serait pas sur ce point leur digne émule, qu'il ne les suivrait pas pour finir seul avec sa sœur à Fridière, confit en ordinaire insularité, par Nicole ou par lui, voire par les deux, du sang neuf entrerait dans la maison. Il avait présenté une Sandrine de 20 ans, pour elle, une fille de postier qui étudiait à Aurillac et deviendrait infirmière. Il avait promptement éventré la grange et bâti le logement de l'étage, travaillant le jour et la nuit, abîmé pendant près de 2 ans dans son chantier quand il n'était pas à l'étable, ou dans les prés, ou sur les machines. La demoiselle, car demoiselle il y avait menu, ne tenant pas en place, rieuse, la voix au perché, s'établirait en libérale à Fridière et sillonnerait sans faiblir les routes de ce canton, où des vieillards de plus en plus nombreux et accablés d'abandon ne manqueraient pas de faillir appel en foule à ses diligents services. Les oncles, peu soucieux de défier sur ce chapitre délicat un neveu l'éperdu de certitude, laissèrent la jeunesse s'ébaubir et n'eurent pas la cruauté de triompher ouvertement quand Sandrine, dépêchée en stage à Brive, jeta son dévolu sur un pharmacien confortable. L'hiver fut rude. Hébété, Paul eut 30 ans et s'obstina à camper seul dans les vastes pièces taillées pour un autre usage. Au printemps, il devint sauvage et sa rage s'abattit sur le travail et sur les méthodes périmées des oncles qui en usaient comme des brutes médiévales et devraient se soumettre ou se démettre. On se cabra, on éructa, on lança de fortes paroles. Paul trouva à qui parler. Nicole joua sa partition. L'attelage vacilla. Le voisinage, averti bien que clairsemé, compta les points avant que, au long de l'hiver suivant, l'affrontement atavique ne s'apaisât en un très prévisible statu quo, chacun et tous, jeunes et vieux, les quatre, étant là, entre bois, terre, bêtes et bâtiments, attachés, tenus, enserrés et livrés pour le temps de leur vie, Paul et Nicole l'apprenaient à des forces antédiluviennes qu'ils n'auraient pas su nommer. Si Paul eut d'autres amours, sans doute, il n'en dit rien et sembla aborder en célibataire résigné les fâcheuses brisées de la quarantaine. Aussi la muette stupeur des oncles n'eut-elle d'égal que celle de Nicole lorsque, à 46 ans révolus, il annonça en 3 phrases, après le café, le premier dimanche d'avril, très exactement le dimanche des rameaux, Nicole s'en souvenait, qu'il ferait pendant le printemps quelques travaux d'aménagement à l'étage où, fin juin, viendrait vivre avec lui Annette, une femme de 37 ans, originaire de Bailleul dans le Nord, et son fils de 11 ans, Éric, qui entrerait dans septembre au collège de Condat en 6e. En juin, le pays était un bouquet, une folie, les deux tilleuls dans la cour, l'érable au coin du jardin, le lilas sur le mur, tout bruit s'effrémissait, l'ondulait, s'était gonflé de lumière verte, luisant, vernissé, presque noir dans les coins d'ombre, une gloire inouïe qui, les jours de vent léger, vous saisissait, vous coupait les mots, les engorgeait dans le ventre où ils restaient tapis, insuffisants, inaudibles. Sans les mots, on se tenait éberlué dans cette rutilance somptueuse. C'était de tout temps,